Alors, j'aimerais, pour la réflexion biblique de ce matin, je ne vous connais pas, et j'ai simplement pris la dernière prédication que j'ai donnée dans mon église. Nous venons de fêter la Semaine Sainte, avec tous les événements de la Semaine Sainte, et les suites de la Semaine Sainte, l'Ascension, la Pentecôte, mais entre les deux, même la cession de Jésus-Christ à la droite de Dieu, et la Pentecôte, où Jésus-Christ a donné d'une manière très spéciale l'Esprit pour créer son peuple, l'Église. Et j'aimerais relever un épisode de cette Semaine Sainte, juste avant la mort de Jésus-Christ, et réfléchir sur un ou deux versets de ces textes qui m'ont fait personnellement beaucoup réfléchir. Et l'on trouve ça dans Marc, chapitre 11, versets 12 à 14. Marc 11, versets 12 à 14 et versets 20 à 25. Alors c'est un événement que l'on trouve dans cet évangile et qui est séparé. Et dans Matthieu, dans le texte parallèle de Matthieu, que je lirai aussi, cet événement est rassemblé en un seul texte. Il s'agit de la malédiction du figuier. Et ce sur quoi j'aimerais parler, c'est sur la foi qui déplace des montagnes. Donc Marc, chapitre 11, versets 12 à 14, je lis dans la Bible du Semeur. Donc le lendemain, donc Jésus vient d'arriver à Jérusalem, le lendemain, comme Jésus sortait avec eux, avec les disciples, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Puis Jésus va dans la ville, il purifie le temple, versets 15 à 19, et le lendemain, verset 20, le lendemain matin, en passant par là, les disciples virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. » Je ne commenterai donc pas tout l'événement. Le figuier, est-ce qu'on s'attendait à trouver des figues ou pas, c'était pas la saison, etc. Je vais laisser ça de côté. J'aimerais simplement m'arrêter à la leçon que Jésus-Christ tire de cet événement concernant la foi qui déplace les montagnes. Et nous avons dans l'évangile de Matthieu le texte parallèle qui reprend les choses et qui sont dites plus ou moins de la même manière, mais avec des petites différences. Et je vous lis juste ce que Matthieu dit au verset 21 et 22 du chapitre 21. Matthieu 21, versets 21 et 22. « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même... si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Et cette façon de présenter les choses ne semble pas, disons, exceptionnelle chez Jésus. Parce que dans un autre texte, Jésus utilise la même image de la montagne à une autre occasion, ce qui montre que c'est quelque chose qu'il avait dans la tête. Et l'autre occasion, c'est lors de la libération et de la guérison d'un enfant possédé épileptique après la transfiguration. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement, je vous le lis aussi. C'est Matthieu chapitre 17, donc les disciples sont présents là lors du retour de Jésus et les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et voilà ce que dit Jésus au chapitre 17, verset 20. Pourquoi n'avez-vous pas pu chasser ce démon ? C'est parce que vous n'avez que peu de foi, répondit Jésus. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque là-bas et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. » Et on a la même chose dans l'évangile de Luc. Mais ce n'est pas une montagne, là, c'est un mûrier qui se déplace. Alors, voilà, ça fait partie des textes que parfois j'ai un peu peur d'aborder. Parce que je crois que il y a quelque chose là qui me semble un peu étonnant. Et je me suis dit, Jacques, va falloir maintenant étudier ce texte. N'aie pas peur, étudie ce texte, même s'il semble un petit peu étrange. Et si ce n'est pas mon expérience de tous les jours de voir des montagnes se déplacer. Alors que ce soit dans le cas de l'enfant possédé et épileptique, Matthieu chapitre 17 après la transfiguration, ou dans le cas du figuier, que Jésus maudit, Jésus fait un miracle. Il chasse un démon, guérit un malade, et d'un autre côté, il change le cours naturel des choses, le figuier est maudit. Alors, quelle leçon Jésus tire-t-il de ces deux événements ? Il y a, dans les deux cas, un appel à la foi. Un appel à la foi. Je vous relis Marc, chapitre 11, verset 22-25. « Ayez » ou verset, oui, on peut relire verset 22 et 25 de Marc 11. « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira. C'est pourquoi, je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez. Trois fois. Présence de cette notion de foi. Alors j'aimerais... La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Ayez foi en Dieu. Et qu'est-ce que cela implique ? Alors, Jésus, semble-t-il, définit la foi qu'il attend. Il y a trois choses que je crois qu'il faut relever. Tout d'abord, Jésus oppose la foi au doute. Vraiment, je vous l'assure, dit à cette montagne, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur. On peut traduire sans hésiter, c'est le même mot. La foi s'oppose au doute. Jacques, dans son épître, parle aussi du doute, en l'opposant à la foi, et en parle en le liant à la prière aussi. Et il dit, celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, rejeté, soulevé par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. La foi s'oppose au doute. Mais Jésus ne définit pas la foi simplement de cette manière, de manière négative. Il la définit aussi de manière positive. Jésus ne s'arrête pas au négatif. Et il précise ce qu'est la foi, de manière très étonnante. Verset 24, je lis, « Tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez, et c'est là qu'il y a la surprise, que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Et c'est bien ce que dit le grec. « Croyez que vous l'avez reçu. » Jésus ne dit pas « croyez que vous allez le recevoir. Et cela vous sera accordé. Non ? Il dit, croyez que vous avez reçu. Et cela vous sera accordé. Croire, c'est croire qu'on a déjà reçu ce que Dieu ne nous a pas encore donné et qu'il va nous accorder. Alors Jésus illustre cela de manière assez étonnante à l'occasion de la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, verset 41, Jésus s'approche du tombeau et il prie à haute voix, volontairement. C'est afin que les gens croient, ils voient. Il dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. » Puis Lazare sort, demanda à Lazare de sortir. C'est pas, « Père, je te remercie de ce que tu vas m'entendre. » C'est étonnant. Puis troisièmement, dans ces textes, sans qu'on doit dire que la foi touche à l'impossible. Elle déplace des montagnes. Si vous dites à cette montagne, déplace-toi. Alors dans le texte de Matthieu 17, qui fait suite à la guérison de l'enfant épileptique, Jésus affirme, verset 20, « Rien ne vous serait impossible ». Et dans Luc, chapitre 17, verset 6, là où il n'est pas question d'une montagne, mais d'un mûrier, Jésus dit du mûrier que la foi déracine. Il dit, le mûrier vous obéirait. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais faire quelques remarques. Déjà, à propos de cet enseignement de Jésus sur la foi. Sans que Jésus nous enseigne tout d'abord par ses paroles étonnantes que le disciple n'est pas un spectateur. C'est un acteur engagé. Qu'on ne s'imagine pas que dans la vie chrétienne, les choses se passent toutes seules. Suivre Jésus, ce n'est pas du farniente. Ce n'est pas du loisir. C'est du travail. Et ce travail, c'est la foi. Ne crois pas, ne crois pas qu'on peut être spectateur de l'œuvre de Dieu. On ne peut être qu'engagé. Engagé. Mais encore, il me semble que l'on doit dire à la lumière de ce qu'on a vu, c'est que la foi change les choses. L'action de Dieu, ce n'est pas du fatalisme, Inch'Allah. Dieu répond à la foi. Dieu agit en fonction de notre foi. Les montagnes bougent si nous croyons et ne doutons pas. Lorsque l'aveugle, dans l'évangile, accourt auprès de Jésus, le Seigneur lui demande « Que veux-tu que je fasse ?» Et au père de l'enfant épileptique, Matthieu chapitre 17, après la transfiguration, qui le père qui les suppliait Jésus d'agir, puis il disait « Si tu le peux !» disait-il à Jésus. Et Jésus inverse les choses, et il lui répond, « Tout est possible à celui qui croit. » La foi change les choses. D'où la question, qu'en est-il de notre foi ? Sommes-nous spectateurs ou pleinement engagés ? Avec le Seigneur, pleinement engagé dans tout ce que nous faisons, la foi. Mais j'aimerais encore faire une remarque. après ces quelques remarques que je viens de faire, et une remarque qu'il me semble très important de bien entendre. La foi qu'il nous faut manifester n'est pas une sorte d'auto-persuasion ou de grandeur d'âme, ni bien sûr une technique. Quand vous lisez certains ouvrages, on vous parle de visualisation des choses ou ce genre de choses. Et puis vous avez des gens qui pensent que la foi, ça consiste à élever le ton de la voix. Toujours étonné de voir quand certains prient, ils ne sont plus les mêmes. Ils s'excitent, bizarrement. La foi dont Jésus parle, il dit « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. Je fais juste une petite remarque. La Nouvelle Bible Second que certains ont traduit « Ayez la foi de Dieu ». Mais ça, c'est de l'exagération littéraliste. Il s'agit bien de la foi en Dieu dont il s'agit. Dans la phrase qui suit, Jésus dit « Croyez ! C'est à nous de croire !» Pas la foi de Dieu, c'est à nous de croire. C'est une foi en Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la question est la suivante. Et là, écoutez bien. Jésus, dans ce texte, nous invite-t-il à demander n'importe quoi ou à nous confier dans le Dieu qui peut tout ? Jésus nous invite-t-il à demander n'importe quoi ou nous invite-t-il à nous confier dans le Dieu qui est capable de tout ? Ayez foi en Dieu. Alors un détail non traduit dans nos versions, parce que ce serait un peu trop lourd en français, souligne que c'est clairement la deuxième compréhension qui est la bonne. Croire en un Dieu qui peut tout. Verset 23. Les verbes de ce verset ne sont pas à l'actif dans le français, dans le grec, dans le texte original. Si quelqu'un dit à la montagne, ôte-toi et jette-toi. Ça c'est de l'actif, ôte-toi et jette-toi. Mais en grec, les verbes sont au passif. Sois ôté, sois jeté dans la mer. Ce n'est pas la foi qui opère le miracle. C'est Dieu. Sois jeté, sois ôté. C'est à la foi dans le Dieu qui peut tout que Jésus nous invite. Et non pas dans une foi qui serait toute puissante. Il faut le noter. Lorsque Jésus maudit le figuier, il ne fait pas n'importe quoi. Il n'agit pas comme un homme immature, une sorte de gamin, qui serait vexé parce que le figuier n'a pas fait ce qu'il voulait. Moi, le Seigneur, oh, il ne m'a pas donné les fruits. Alors je le maudis. Non. Ce n'est pas ça le sens de son geste. Non, l'histoire du figuier entoure l'histoire de la purification du temple dans l'évangile de Marc. Et vous savez que dans l'évangile, on n'a pas le temps de le montrer, mais Luc nous le dit très clairement, dans l'évangile, le figuier représente Israël, qui continuellement, depuis 2 ans et demi, ou 3 ans et demi, selon votre compréhension des choses, depuis 2 ans et demi, rejette son Messie. Ça fait 2 ans et demi, dit Luc, que le Seigneur est là et attend du fruit. Et ça fait 2 ans et demi que le fruit n'est pas là. Et voici que vient le temps de la malédiction. Après celui de l'annonce fidèle, sérieuse, constante de la bonne nouvelle par Jésus durant 2 ans et demi. Et vous savez qu'en 70, Jérusalem sera ravagée, le temple détruit, le figuier était maudit. Jésus ne fait pas n'importe quoi. En maudissant le figuier, Jésus n'a pas agi à la légère. Sa foi n'était pas un truc. Mais sa foi s'est inscrite dans le plan de Dieu, dans le programme divin pour Israël. La foi, ça ne consiste jamais à mettre Dieu à notre service. Et Jésus met ce fait en évidence de manière très forte, en insistant sur le lien entre la foi et la prière. Car la foi en Dieu, et pas la foi en la foi, la foi en Dieu se vit dans la prière, dans une relation vivante et personnelle avec un Dieu qui peut tout. Verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Le parallèle dans Matthieu, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et dans l'épisode de l'enfant épileptique, Matthieu 17, à la question des disciples qui demandent à Jésus « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon nous-mêmes ?» Jésus répond « C'est parce que vous avez peu de foi. » Et dans le texte parallèle de Marc, il est dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière. » Je souligne juste qu'il n'est pas question du jeûne dans ce texte. Les meilleurs manuscrits n'ont pas le jeûne. C'est des manuscrits beaucoup plus tardifs. Et aujourd'hui, plus aucune version de la Bible ne dit par le jeûne et la prière, ou par la prière et le jeûne, car ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas dans l'original. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de machin qu'il faut faire. C'est la prière de la foi en Dieu. La foi qui déplace des montagnes se vit dans une relation intime de prière avec le Dieu qui peut tout. Ce n'est pas une question de pratique ou de technique. Et là, j'ai envie de dire quelque chose que je crois fondamental. Alors écoutez bien. L'union de la foi et de la prière est le fruit d'une véritable alchimie divine. Et voilà ce que je vais lui lire deux fois. Je l'écris. La foi est cette confiance que Dieu crée en nous par sa grâce, en vue de nous donner ce qu'il a souverainement décidé de nous donner en réponse à notre prière. Je redis. La foi est cette confiance que Dieu crée en nous par sa grâce, en vue de nous donner ce qu'il a souverainement décidé de nous donner en réponse à notre prière. Nous ne forçons pas la main de Dieu. Dieu est souverain. Tout est grâce. Mais Dieu a décidé de nous donner en réponse à la foi qu'il veut créer en nous et qui s'exprime dans la prière. D'où l'alchimie divine. Que demander ? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, dit Paul. Et l'Esprit intercède en nous. Il y a là une alchimie qui se fait, des convictions qui s'installent, des certitudes qui se font et qui nous poussent à demander, non pas pour forcer la main de Dieu, en criant plus fort, en jeûnant 15 jours, en cherchant à manipuler Dieu. Non ! une foi que Dieu crée, une confiance qu'il produit, qui nous amène à demander ce qu'il a décidé de nous donner. Mais là, chers amis, on ne peut pas être spectateur. On ne peut être qu'un acteur engagé avec le Seigneur dans la vie de prière, de foi, chaque jour, chaque instant, en marchant, en conduisant, en travaillant, devant la présence du Seigneur. Jésus a maudit le figuier car il savait que l'heure de sa mort était arrivée. Il ne joue pas. Quelques instants plus tard, quelques jours plus tard, il allait prier. Il allait prier à ce sujet. C'est dit, saisi d'effroi et d'angoisse dans le jardin de Gethsémané. Prêt à prendre la malédiction sur lui, pour ceux qui allaient croire en lui. Alors il ne me reste plus qu'un point à relever dans le texte à propos de cette prière. C'est la précision que Marc donne à la fin de notre texte et qui est unique dans Marc, ce n'est pas dans Matthieu, ce n'est pas dans Luc, c'est en tout cas dans cet épisode. C'est le verset 25 qui est étonnant et qui rejoint ce que notre frère nous a dit à propos de l'amour. Quand vous priez, quand vous exercez la foi, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. C'est comme si Jésus disait que le chemin vers Dieu, la foi en Dieu, exige un détour par notre prochain. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prier le Notre Père. Si vous ne l'avez pas, prenez cette habitude. Elle est belle. Et dans le Notre Père, il est dit, pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi, ou nous-mêmes nous avons pardonné aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je ne sais pas si vous avez relevé que c'est la seule demande de tout le Notre Père qui concerne les relations humaines. Comme si la marque de qualité des relations humaines pour Jésus, c'est le pardon. Comment pourrions-nous demander quoi que ce soit avec confiance à Dieu si nous n'agissons pas envers les autres avec la miséricorde que nous demandons à Dieu de déployer envers nous? Voyez Jésus. Il maudit le figuier, Israël, et il meurt quelques jours plus tard en priant pour ceux qui le crucifient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette prière pour le pardon, Dieu l'a exaucée pour tous ceux qui ont cru en ce Jésus-là. En maudissant le figuier, Jésus a déjà en vue sa prière, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je ne sais pas ce que nous pouvons faire de tout ça. La foi, c'est un sacré programme. Mais ne soyons pas paresseux et apprenons à prier et à vivre avec le Seigneur. Prions. Notre Père, nous sommes tous de bien petits et faibles apprentis. Et l'exemple de Jésus nous humilie et en même temps nous encourage. Notre Père, merci pour la façon tellement simple dont il exerçait la foi. Merci parce que pour lui, la foi, ce n'était pas de jouer avec la vie. Il a même accepté la mort. Mais merci, Père, parce qu'il nous a montré ce qu'est une vie d'obéissance, d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Il nous a montré ce qu'est une vie où la foi s'incarne, de ce qu'est la vraie foi en Dieu, dans le Père, voulons te demander, Esprit Saint, de nous faire connaître le Père pour mieux le prier et savoir ce qu'il faut demander. Au nom de Jésus. Amen.